7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. On parle éducation comme chaque vendredi, l'école en France, la discrimination, la lutte antiraciste. Il y a quelques jours, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a annoncé une plainte pour diffamation contre le syndicat Sud Éducation, section de Seine-Saint-Denis, qui évoquait un racisme d'État à l'école à l'occasion d'ateliers non mixtes pour des enseignants syndiqués. Alors de quoi s'agit-il exactement? L'école est-elle raciste ou du moins discriminante pour les enfants issus de l'immigration? Et si oui, par quel mécanisme? Des réunions communautaires sont-elles une solution pour mieux permettre aux minorités en France de bénéficier d'une égalité républicaine? Comment expliquer aussi que l'école cristallise aujourd'hui et souvent des déchirements anciens de la lutte antiraciste? On va en discuter avec vous, Olivier Laferrière, co-secrétaire de la Fédération Sud Éducation. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes aussi professeur de philosophie en lycée à Saint-Étienne.
Tout à fait.
Louis-Georges Tin, bonjour.
Bonjour.
Président du CRAN, qui rassemble les associations noires de France, et professeur à l'université d'Orléans. Vous êtes une figure de la lutte antiraciste, mais aussi de la lutte contre l'homophobie. Votre organisation, le CRAN, réclame d'ailleurs depuis des années des statistiques ethniques, on en parlera, pour avoir une idée plus précise de l'état des discriminations en France. Fabrice Dume, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, Université Paris Diderot, vous êtes spécialiste de l'orientation scolaire et des discriminations. Olivier Loup, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, enseignant, vous travaillez sur l'école et l'identité, mais alors dans le temps long en France, mais vous êtes aussi professeur en classe préparatoire en lycée. On est également en ligne avec Amine El Khatmi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes élu socialiste à Avignon et vous êtes président du Printemps républicain. Vous avez publié tout récemment « Non, je ne me tairai plus, la gauche et l'islam ». Voilà. Je vais vous lire aussi un message qui a été posté sur notre fil Facebook. Un message d'Abby qui poste ce message. « Vivant en France, issu de l'immigration, ayant poursuivi mes études jusqu'à un bac plus 3 ». J'ai apprécié ma scolarité jusqu'à la fin du collège où les profs m'ont beaucoup appris parce que mes parents, analphabètes, ne pouvaient pas m'aider. Mais j'ai tristement constaté que la discrimination commence à la fin du collège où l'orientation est déterminante. Et c'est à ce moment-là que l'école ne joue plus son rôle, notamment en termes d'information, d'accompagnement des élèves de la façon la plus objective, égalitaire, alors que c'est son rôle. Abby poursuit. Voilà, c'est le résultat pour ceux qui ont des parents qui connaissent et qui maîtrisent mal le système éducatif français. Les autres s'en sortent beaucoup mieux. Je me suis sentie démunie car ni mes parents ni l'école à ce moment-là n'ont pu m'accompagner comme je l'aurais souhaité. Alors bien sûr, vous pouvez aussi nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Toute la question est de savoir si Abby écrit ce message parce que ses parents étaient socialement issus d'un milieu populaire ne maîtrisant pas les codes ou parce que ses parents et elle-même avaient une autre couleur de peau, une autre origine géographique par rapport à la majorité de la population française. Voilà, c'est toute la discussion qui est déjà lancée. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins pour se parler.
7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, on dit quoi ?
Olivier Laferrière, syndicaliste Sud Éducation, en tant qu'enseignant, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la démarche de votre syndicat enseignant avec ces ateliers, des ateliers qui sont prévus d'ailleurs 18 et 19 décembre, juste avant les vacances, c'est ça, de Noël ?
Oui, tout à fait. Donc on a, dans le cadre d'un stage qui a été ouvert à l'ensemble des personnels, donc pas du tout un stage qui est entièrement en non-mixité, pas exclusivement des enseignants.
La
particularité de notre syndicat, c'est d'être ouvert à l'ensemble des personnels qui travaillent dans l'éducation nationale, donc effectivement des enseignants et des enseignantes, des conseillers d'orientation, mais aussi des agents et des agentes techniques,
ouais,
des assistants et des assistantes d'éducation.
Donc qu'est-ce qu'on est censé se raconter le 18 et 19 décembre là ?
Donc dans le cadre d'un stage qui va réfléchir sur les questions que vous avez très bien introduites en début d'émission, on va réfléchir sur la situation du racisme dans l'école, des discriminations que subissent les élèves, mais aussi les personnels de toutes les catégories. Et à l'intérieur de ce stage, il y a deux temps qui ont été proposés et annoncés sur 9 ateliers différents. Il y a 2 des ateliers où sont proposés des ateliers en non-mixité pour que les personnes qui sont victimes de racisme puissent réfléchir entre elles.
Donc ça veut dire quoi, des ateliers en non-mixité, pour parler clairement?
Ça veut dire ça, ça veut dire que les personnes qui...
C'est-à-dire que c'est pour des profs qui sont noirs?
C'est pour tous ceux et toutes celles qui se considèrent comme victimes du racisme dans la société française. C'est pas le syndicat qui va trier les personnes en fonction d'on ne sait quels critères. Là, pour le coup, hein, c'est les personnes, c'est affiché, c'était dans le programme, les gens se sont inscrits sur la base de ce programme, en connaissance de cause.
Donc ça veut dire clairement que des profs blancs ne sont pas souhaités, ou pas? Juste pour comprendre.
Que les profs blancs, vraisemblablement, ils sont invités à rejoindre un autre atelier, où d'ailleurs on va réfléchir sur ce que ça veut dire quand on est, nous, dans la position du groupe le plus important et du groupe dominant dans une société donnée, ce que ça veut dire dans notre relation aux élèves qui, eux, sont victimes de racisme, dans notre relation aux autres personnels qui sont victimes de racisme, et comment on peut nous-mêmes lutter contre les stéréotypes qui nous habitent tous, les pratiques qu'on reproduit involontairement la plupart du temps, et qui contribuent à produire les discriminations dont votre auditeur nous a fait part.
Vous parlez de racisme d'État dans la société, en particulier à l'éducation nationale. C'est pour cela que Jean-Michel Blanquer a annoncé une plainte en justice pour diffamation. Elle est déposée, cette plainte, contre votre syndicat ou pas, d'ailleurs? On n'a toujours pas réussi à comprendre.
Oui, alors si vous me permettez, puisque là on revient, on l'espère, pour un petit temps sur la polémique, pour après revenir sur...
Oui, parce que c'est une plainte de l'État français contre vous en tant que syndicat, c'est ça?
Sur la question de fond, c'est un phénomène majeur, cette attitude, cette annonce, cette démarche du ministre de l'Éducation nationale, qui est, lui, un véritable scandale. C'est-à-dire que c'est inédit, pour le coup on a un historien qui peut-être pourra confirmer ou infirmer ce que je dis, mais qu'un ministre de l'Éducation nationale porte plainte contre une organisation syndicale pour l'utilisation d'un concept, fasse une polémique devant l'ensemble de l'Assemblée nationale. C'est un fait inédit.
Il a été applaudi par une grande majorité de l'Assemblée nationale.
Il a été applaudi, une standing ovation lancée par Marine Le Pen et suivie par l'essentiel de l'Assemblée nationale. Enfin, dit quelque chose d'extrêmement inquiétant. Donc nous sommes d'accord.
Bon, donc ces ateliers vont se tenir juste avant les vacances de Noël ou pas?
Le stage est maintenu, oui.
Le stage est maintenu.
Nous, on est d'accord pour qu'il y ait un débat, évidemment, sur la notion de racisme d'État, et on va l'avoir ensuite.
Et vous êtes d'accord aussi qu'il y ait un débat sur conversations fermées à certains, d'autres conversations, c'est-à-dire des conversations cloisonnées en fonction du vécu des gens? Vous êtes d'accord pour qu'il y ait un débat là-dessus?
Nous ne sommes pas ceux qui refusons les débats.
Celui qui refuse
le débat, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui a proposé de censurer notre stage, en voulant d'abord l'interdire, puis en voulant nous condamner pour l'utilisation d'un concept qui est très largement et depuis des décennies utilisé en sociologie.
À savoir le racisme d'État. Alors les chercheurs ne parlent pas souvent de racisme d'État. Il y a d'autres périphrases, mais enfin bon, on nage là en plein jargon. Amine El-Khatmi, pour parler simplement, le ministre de l'Éducation a annoncé cette plainte pour diffamation contre le syndicat Sud. Est-ce que vous êtes satisfait de cette réaction?
Oui, j'ai salué la décision du ministre de l'Éducation nationale. Bien sûr, tous les débats sont possibles. Il faut absolument sacraliser le fait que les chercheurs, les sociologues, au sein de nos universités, il faut qu'il y ait des débats. C'est le sens même d'une université, de l'éducation, c'est que l'on puisse débattre et que l'on puisse mettre en question des concepts. Mais enfin, de quoi parlons-nous ? De racisme d'État, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand même un concept étrange. Ce n'est pas l'idée qu'il y ait, et c'est le cas, des individus racistes dans notre pays. Ça, je pense que tout le monde l'admet. Et à chaque fois qu'il y a un dérapage raciste de la part d'un individu, qu'il soit une personnalité publique ou un citoyen lambda, notamment sur les réseaux sociaux, la justice est saisie et lorsque les faits sont établis, elle prend des sanctions. Mais le racisme d'État, c'est l'idée qu'il y aurait un système organisée par le pouvoir, par le gouvernement.
En l'occurrence, l'éducation nationale.
L'éducation nationale dans le présent cas, mais il y a d'autres exemples. C'est-à-dire un système qui serait intrinsèque aux lois, intrinsèque à l'organisation sociale, politique, économique du pays, et qui serait un système voulu, organisé, et qui viserait à discriminer en masse nos compatriotes, qu'ils soient arabes, musulmans, noirs ou autres. Ça, c'est absurde. C'est une idée qui n'a pas de sens. Il n'y a pas aujourd'hui de racisme d'État en France. Aucun gouvernement français n'organise, ne mène des politiques qui viseraient à exclure des pans entiers de la population. Et si tel était le cas, nous en serions tous indignés et nous serions mobilisés sur le champ pour lutter contre ça. Donc, oui, il y a des individus racistes en France. Il faut les combattre sans relâche. Il faut à chaque fois que la justice soit implacable. Mais laisser croire qu'il y aurait un système organisé de masse visant à exclure nos compatriotes en raison de leur couleur de peau, de leur religion, de leur origine, c'est une idée absurde. Et le ministre de l'Éducation nationale, au nom du gouvernement, a raison de porter plainte pour diffamation, parce que c'est une diffamation.
Louis Georgetin, en tant que président de la Confédération des associations noires de France, quelle est votre position ?
Oui, il y a du racisme d'État. Ça ne veut pas dire que tout l'État fait tous les jours du racisme, mais il veut dire qu'il y a du racisme institutionnel et c'est des institutions d'État. Deux exemples. Monsieur Valls, notre ancien Premier ministre, avait lui-même parlé de ghetto. Un ghetto, par définition, c'est un lieu où il y a une ségrégation ethnique et les gens ne se disent pas « je vais aller dans les quartiers les plus pauvres parce que ça me plaît d'être dans des quartiers pourris ».
Ghetto qui se retrouve à l'éducation nationale, dans les établissements scolaires,
donc,
qui sont le fruit
de la
politique de l'habitat. Donc M.
un homme d'extrême gauche, lui-même avait reconnu des ghettos. Autre exemple, nous avions prouvé récemment, il y a quelques années, qu'il y avait des délits de faciès. Cela a été confirmé par une enquête du CNRS. Monsieur Hortefeux lui-même, l'ancien ministre de l'Intérieur et de l'Immigration, avait reconnu que le délit de faciès mis en place par la police, que ça existait, que les Noirs et les Arabes sont 7 à 8 fois plus contrôlés que les autres. Lorsque l'État a été condamné par la justice, l'État a fait appel de cette décision de justice. Donc ça veut dire que l'État est dans le déni. Monsieur Hortefeux lui-même dit oui, il y a du délit de faciès.
Mais concernant l'éducation nationale, à proprement parler.
Bien sûr, mais je montre les exemples. Je dis que, bien sûr, c'est vrai dans l'éducation nationale et on en parlera. C'est vrai dans le domaine de l'immobilier, de l'urbanisme. C'est vrai dans le domaine de la police. Et donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, on devrait condamner une expression qui désigne une réalité que plusieurs ministres assez conservateurs ont eux-mêmes validée. Donc, dans l'éducation nationale, c'est vrai, ce que dit Abi a été confirmé par des enquêtes en France, sur l'orientation scolaire, nous avons une enquête en cours, mais il y a aussi le livre de François Durper et Béatrice Mabilon, Fatima, moins bien notée, que Marianne, qui démontre ces choses-là, que l'orientation scolaire, en effet, est faite d'une manière ethniciste. Ça ne veut pas dire que les professeurs sont tous des militants fascistes qui se disent « dès que je vois un noir en arabe, je l'envoie dans une section scolaire défavorisée », mais que les préjugés ont un effet massif sur l'orientation. Donc il y a à la fois des biais sociaux, c'est-à-dire que le fils d'ouvrier et le fils de médecin ne seront pas envoyés dans les mêmes sections à notes égales, mais le fils d'ouvrier blanc et le fils d'ouvrier arabe ne seront pas non plus envoyés dans les mêmes lycées lorsqu'ils ont les mêmes notes. Voilà ce que dit Abi et elle a raison.
Fabrice Dume, comment vous voyez les réunions communautaires aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on vient d'exposer ? Est-ce que ces réunions sont légitimes, sont utiles, sont souhaitables pour que les personnes en minorité soient mieux protégées et plus en situation d'égalité dans la République française ?
Je pense que l'une des choses importantes à se dire d'abord, c'est que des ateliers non mixtes, il y en a tous les jours au gouvernement ou à l'Assemblée nationale. Et cela, manifestement, ne pose aucun problème. Et pour moi, ça illustre bien, si vous voulez, le fait qu'il y a... Alors, est-ce que c'est un malentendu ? Mais je pencherai plutôt sur le fait qu'il y a un déni fondamental, déni politique, c'est-à-dire, ou au moins un malentendu et une méconnaissance sur ce qu'est réellement le racisme. Le racisme, ça n'est pas, comme ça a été dit, des individus racistes qui adhéraient à des idéologies. Bien sûr qu'il y a des individus qui adhèrent à des idéologies. Mais le racisme, comme la question du sexisme, comme la question des classes sociales, d'accord, c'est une organisation globale de la société qui, tendanciellement, c'est-à-dire non pas systématiquement, c'est pas tous les jours, tout le monde, tout le temps, mais tendanciellement, globalement, a pour effet de produire un groupe qui tire les bénéfices de la situation et des groupes qui, au contraire, sont pénalisés par la situation.
Mais sur le fait que des organisations réclament un entre-soi pour parler de ces problèmes-là, est-ce que vous comprenez le malaise que ça peut susciter ou pas ?
Ce qu'il faut entendre, c'est que je vais y répondre, mais ce qu'il faut entendre derrière ça, c'est que ce système, hein, ce racisme systémique, il produit des expériences extrêmement différentes selon qu'on subit le racisme, qu'on est victime du racisme, ou selon qu'on ne le subit pas. Voilà. Et de la part de ceux qui ne le subissent pas, ils n'arrivent pas souvent à entendre ce que c'est de subir le racisme. Donc, ce que visent des ateliers de mixité qui existent depuis aussi longtemps qu'existe le racisme ou le sexisme, d'accord, en réalité, même s'ils prenaient d'autres formes, ce que vivent ces espaces-là, c'est à rendre possible pour des personnes qui subissent le racisme de prendre conscience collectivement de cette expérience, de partager cette expérience, pour pouvoir ensuite en faire quelque chose.
Amine El Khatmi, est-ce qu'il faudrait permettre un niveau finalement minimum de communautarisme pour plus d'égalité ?
Bon, d'abord, je constate que ces messieurs, c'est assez formidable, sont visiblement tous d'accord entre eux, tous les trois.
Je n'ai pas encore parlé.
Ce qui assure, oui, pardon, je suis pas en plateau, donc en studio, donc je n'ai parle que des
Fabrice
trois.
Fabrice Dune, historien, va s'exprimer. Oui.
Voilà, j'espère qu'il apportera un peu de pour rééquilibrer un peu ce débat qui a l'air assez déséquilibré. Mais j'entendais l'un de vos intervenants tout à l'heure dire quelque chose qui m'a fait sursauter. Il dit la police a mis en place des contrôles aux faciès. Enfin, quand on prend la parole dans le débat public, il faut faire attention aux mots qu'on emploie quand même. La police a mis en place le délit au faciès. Est-ce que vous êtes en train d'accuser l'organisation hiérarchique de la police nationale, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur ? Est-ce que vous êtes en train d'accuser un ministre de l'Intérieur d'avoir donné ordre à la police d'organiser des contrôles au faciès ? Si c'est votre accusation, il faut l'assumer et la poser clairement sur la table, parce que dans ce cas-là, ça mérite débat. Qu'il y ait des policiers, laissez-moi parler, c'est déjà pénible d'être au téléphone. Qu'il y ait des policiers moins scrupuleux que d'autres, comme il y a des avocats véreux, des médecins voyous et des enseignants qui ne sont pas à la hauteur, c'est un fait contre lequel vous ne pourrez rien. Et lorsqu'il y a des faits où la police est mise en cause, il y a ce qu'on appelle l'IGPN, qui est la police des polices, et dont la mission est précisément de chasser les brebis galeuses et de les sanctionner à chaque fois qu'il y a des preuves. Mais laisser entendre ou laisser croire qu'il y aurait eu à un moment ou à un autre un ordre donné par je ne sais quel patron de la police pour que les policiers se mettent en masse à contrôler massivement les Noirs et les Arabes, c'est un propos absurde.
Alors...
voilà,
donc... Amine El Khatmi, restez en ligne avec nous parce qu'on va devoir rendre l'antenne d'ici deux minutes pour le flash. Mais bien sûr, vous restez avec nous toute l'émission, Amine El Khatmi. Mais Olivier Loub, en tant qu'enseignant déjà, en tant qu'enseignant, comment vous réagissez par rapport à cette polémique ?
Alors, en tant qu'enseignant, en tant qu'historien, en tant que citoyen, moi, je suis frappé par une contradiction qu'on peut ne pas partager autour de cette table entre les buts et les moyens. Le but de l'antiracisme et la difficulté qu'il y a à faire parler les gens discriminés, on la constate tous. Mais le moyen qui est de séparer dans l'espace public cette prise de parole
ceux qui
me
vivent
paraît...
les problèmes et ceux qui les
non,
vivent
non, mais
pas en gros.
Qu'il y a un temps, il y a des temps dans un débat public, mais moi si vous voulez je trouve qu'il y a une contradiction et je l'ai vécu comme ça lorsque je l'ai entendu et je suis ravi que le représentant du syndicat puisse le dire autrement, mais quand même peut-on dire à la fois qu'on est antiraciste et qu'on souhaite la séparation quand historiquement ça rappelle que le seul État, le seul modèle d'État raciste qui ait existé, est-ce qu'on peut être separate and equal ? Ça ne marche pas, de mon point de vue.
Séparés égaux.
Oui, c'est-à-dire séparés égaux, c'était quand même la base de la ségrégation aux États-Unis. Et c'est un modèle d'une très grande violence. Or, est-ce qu'on peut dire je veux obtenir la lutte, je veux une lutte antiraciste, en même temps dire je vais séparer les catégories qui en parlent ? Moi, je trouve que pour le débat public, de mon point de vue, c'est une mauvaise voie, mais ça n'engage que moi.
On va y revenir sur ces méthodes de l'entre-soi, quelle est leur efficacité ? On reviendra d'ailleurs notamment sur les conférences du CRAN. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, le mouvement Black Lives Matter pour lutter contre les violences policières à l'égard des personnes noires est un mouvement extrêmement important. Il y a d'ailleurs ses équivalents dans l'éducation, dans le système éducatif aux États-Unis. Quelle est la réalité aussi des discriminations à l'école aujourd'hui et comment mieux rendre l'école moins discriminante, plus équitable? On en reparle dans un peu plus de 3 minutes, juste après le flash sur RFI.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins. Nous parlons éducation comme chaque vendredi, l'école en France, la discrimination, la lutte antiraciste, notamment quelques jours après cette polémique où le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a annoncé une plainte en diffamation contre le syndicat Sud Éducation. Olivier Laferrière, vous êtes co-secrétaire de la Fédération Sud Éducation et vous êtes professeur de lycée, de philosophie en lycée. Plainte donc annoncée par le ministère de l'éducation suite à des ateliers en non-mixité, parce que c'est, je reprends les termes qui ont été annoncés par votre syndicat, pour lutter contre le racisme d'État, notamment à l'éducation nationale. Louis Georgetin, vous êtes aussi avec nous, universitaire, président du CRAN qui rassemble les associations noires de France. Fabrice Dume, sociologue, spécialiste de l'orientation scolaire et des discriminations. Olivier Loube, historien et enseignant. Et Amine El-Khatmi au téléphone avec nous, et j'en suis désolée, vous êtes à Avignon, ce n'est absolument ni votre faute ni la nôtre, et vous êtes président du Printemps Républicain, et bien évidemment vous intervenez quand vous le souhaitez dans le débat, Amine El-Khatmi. Juste pour revenir sur la démarche du CRAN, puisque le CRAN, c'est une fédération qui rassemble les associations noires de France en toute légalité. Vous organisez régulièrement, Louis Georgetin, des réunions qui rassemblent donc des personnes des associations, donc des personnes noires. Alors, est d'accord.
Oui. Hein, nous n'utilisons pas la non-mixité parce qu'elle n'est pas utile au travail de plaidoyer que nous faisons. Donc il y a au sein du CRAN, y compris au sein du conseil d'administration, des personnes de toutes les couleurs, de toutes les religions aussi, juives, musulmanes, chrétiennes ou athées, etc. En revanche, ce que nous disons, et je rejoins tout à fait Fabrice Dume là-dessus, quand on voit la photo de l'Assemblée Générale des Maires de France, on voit un atelier non-mixte géant. Et effectivement, les gens sont très embarrassés, ne veulent pas parler de ce sujet. Donc la non-mixité d'en haut est tout à fait légitime, non questionnée. Et la non-mixité d'en bas, lorsqu'il y a quelques personnes qui font un atelier, tout de suite, est un scandale. Donc il y a là un deux poids deux mesures, une absurdité. Et la non-mixité associative est une pratique très ancienne. Il y a heureusement des ateliers non mixtes avec des femmes qui ont été victimes de viols, qui ne parleraient pas de la même façon s'il y avait des hommes dans la salle.
Du même, on a pareil, des associations d'étudiants africains ou des associations d'étudiants.
Sur le handicap, vous avez des personnes dont l'élocution n'est pas fluide parce qu'elles sont malentendantes et qui disent « si nous sommes avec des gens valides, ils se moquent de nous ou nous sommes en difficulté ». Donc on préfère parfois, ce n'est pas un programme de société, mais on peut parfois préférer, pour réfléchir ensemble, être non-mixité. Pareil sur des descendants d'esclaves ou de descendants de victimes de la Shoah. Bien, donc on peut comprendre que dans des milieux particuliers, dans des contextes particuliers, pour se rassembler et faire émerger une parole, des gens travaillent ensemble. Le CRAN n'utilise pas ces techniques parce qu'on fait autre chose, on fait du plaidoyer.
J'ai été sollicité par votre organisation, le CRAN, pour animer bénévolement, il y a plusieurs années, un atelier pour les parents noirs et l'école sur la réussite scolaire. C'est quand même le sujet qui intéresse tous les parents du monde. Et durant cette journée où les conférences se succédaient, j'étais évidemment quasiment la seule blanche. Mais j'avais été invitée par votre organisation en tant que journaliste RFI, spécialiste de l'éducation. Et je dois dire que j'ai pris conscience de l'inquiétude, justifiée ou non, ça j'en sais rien, mais des parents, à l'idée que la couleur de peau puisse prédominer sur leur niveau social, sur leur implication dans l'éducation de leurs enfants. Et cette inquiétude-là est partagée dans des réunions, c'est vrai, où on en est entre soi, parce que, comme vous l'avez dit, c'est un mécanisme humain. Alors toute la question, c'est est-ce qu'il faut permettre, est-ce qu'il faut encourager un minimum de communautarisme, et est-ce que c'est utile, est-ce que c'est efficace? Comment vous voyez les choses, Amine El-Khatmi?
Écoutez, moi je garde la même ligne. Qu'il y ait des phénomènes de racisme, qu'il y ait même des enseignants racistes, évidemment que ça existe. Et là aussi, je le répète, la hiérarchie à tous les niveaux de l'éducation nationale est, je le crois, mobilisée. Et à chaque fois que nous avons des éléments concrets...
Oui, oui. Pardonnez-moi, Amine El-Khatmi, c'était juste la question, c'est sur un temps de l'entre-soi pour faire émerger une parole, ce que disait Louis Georgetin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Je suis attaché à un principe dans le combat antiraciste, c'est l'universalité de la condition humaine. Moi, je ne pense pas que l'on mène la guerre contre les discriminations et le racisme en érigeant des murs au sein de la population. Moi, je ne vois pas au nom de quoi on interdirait à un individu, à un compatriote, du seul fait de sa couleur de peau, parce qu'il est blanc, de venir s'associer au combat antiraciste et de venir aider ceux qui en sont victimes. Alors il y a des cas dans lesquels je peux comprendre, on me cite souvent le cas de femmes battues par exemple, de femmes victimes notamment de violences conjugales et qui effectivement peuvent se sentir plus libres, plus à l'aise pour parler si elles sont entre femmes et s'il n'y a pas d'hommes. Ça c'est quelque chose que je peux parfaitement entendre.
Notamment les organisations féministes aussi, ou les réseaux de femmes pour organiser des carrières par exemple. Mais c'est vrai que récemment les réseaux de femmes se sont rendus compte que leur combat gagnait en s'ouvrant à des hommes qui partageaient leur combat. Il faut le reconnaître aussi.
Aussi, donc je pense que il y a certains cas de figure où ça peut se justifier, mais il faut que ces cas restent minoritaires. Et dans le cas du combat antiraciste, et je crois que Dominique Sopo, notamment le président d'SOS Racisme, a une position très claire là-dessus, on ne peut pas commencer à ériger des frontières au sein de la population.
C'est tous les déchirements de la lutte antiraciste à l'heure actuelle, en fait, entre les positions du CRAN et les positions de SOS Racisme, non, finalement.
Il n'y a pas tellement d'opposition en réalité. Parce que
ils défendent une ligne très universaliste et
vous
défendez
ensemble.
Une ligne beaucoup plus communautariste au CRAN.
Nous travaillons ensemble sur beaucoup de projets, il n'y a pas d'hostilité. C'est comme
mais
disait
sur
Fabien
le fond, Dieu. Vous avez le même objectif, qu'il y ait moins de racisme et moins de discrimination en France. On est d'accord, mais vous n'avez pas les mêmes méthodes.
Mais que je vous dis, nous ne pratiquons pas la non-mixité. Simplement, je dis que sur certains sujets, dans certains domaines, c'est un outil intéressant qu'il ne faut pas exclure. Et aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, ces réalités existent dans tous les domaines de l'antidiscrimination, et on n'a jamais vu un ministre de l'Éducation.
C'est la norme. Hein.
C'est pas la norme, c'est une pratique parmi d'autres. Et c'est un débat qui est franco-français, et il faut s'en rendre compte.
Olivier Loube.
Oui, moi je crois aussi qu'il faut s'entendre sur les mots et sur les positions. On parle de position d'association, et par ailleurs, on parle de l'institution qui est l'État. En tant qu'historien, moi le seul racisme d'État que j'ai rencontré, c'est le régime de Vichy. Très clairement. Là, vous avez un racisme d'État dans lequel l'institution entière, dans les décisions qu'elle prend du sommet et qu'elle essaie de faire passer à la base, d'ailleurs, ça passe pas forcément si bien que ça, a une dimension, des principes et tout un arsenal juridique, etc., qui est
mais
un
que
racisme.
Que diriez-vous
d'État.
De l'empire colonial pendant la colonisation qui a duré quand même jusqu'en 62.
Je rajoute ceci.
Si on peut revenir à l'éducation nationale aujourd'hui.
Justement, je vais parler de l'éducation nationale. L'éducation nationale aujourd'hui, quand même, ne déploie pas un racisme institutionnel d'État. Elle a même une lutte contre, qu'en revanche, on se dise, et on a raison, il y a des phénomènes de discrimination qui prennent ou qui peuvent avoir une ampleur telle qu'il faut que l'État s'en saisisse, bien entendu, mais il s'en saisira d'autant plus que l'État actuel, républicain et démocratique, a pour fondement l'antiracisme. C'est extrêmement clair. C'est-à-dire qu'on peut, dans une république démocratique française à l'heure actuelle, lutter contre les pratiques racistes portées parfois par l'institution, avec les valeurs mêmes de cette institution. C'est ça la différence entre un pays démocratique et un pays de dictature.
Je pense que le débat, il est complètement biaisé, et par deux choses. C'est d'abord le présupposé que quand on dit racisme, ça suppose une intention des personnes. Voilà. Ça n'est pas vrai dans la plupart des cas. On peut très bien être antiraciste et avoir des pratiques racistes et dont on ne se rendrait même pas compte.
Oui, quand on dit racisme d'État, on dit une intention.
Mais c'est la question générale
Alors les mots ne veulent rien dire.
C'est la question générale du racisme.
À quoi vous pensez à l'heure actuelle à l'éducation nationale?
Soyons très clairs. Il y a une étude en 2008 qui a été faite sur les modes de sélection des enseignants. D'accord? Qui a porté sur les jurys de sélection des enseignants, qui montre qu'il y a 20% des enquêtés qui déclarent, donc des jurés, des gens qui sélectionnent, qui le déclarent, donc qui, un, le reconnaissent et sont prêts même à le reconnaître dans une enquête, ce qui est déjà assez rare. 20% des enquêtés qui disent que quand ils sélectionnent les enseignants, les futurs enseignants, ils prennent en compte la couleur de peau, ils prennent en compte le sexe, le handicap, etc. 20%. D'accord ? Donc le phénomène, il est massif. La question, c'est pas de dire, il y a 20% des personnes qui sont individuellement racistes. Ça n'a aucun sens. C'est ça la question. Maintenant, il y a une vraie question d'ordre institutionnel, c'est-à-dire qu'on voit bien que s'il y a des personnes qui pensent nécessaire de tenir compte de ces critères-là, c'est parce qu'elles ont une conception qui est largement structurelle dans l'institution scolaire, qui pensent qu'un prof, ça doit être plutôt comme ça que comme ça. Et donc, utiliser ces critères, c'est une manière institutionnelle.
Ça peut aussi être dans un but de discrimination positive, par exemple.
Mais absolument pas, parce que quand on tient en compte de la couleur de peau, c'est au détriment des personnes, d'accord ? Quand on tient en compte du handicap et de l'obésité, c'est au détriment des personnes. D'accord ? Donc, deuxième exemple, c'est qu'il vient de sortir, là, il y a deux mois, une étude de l'Observatoire national de la vie étudiante qui montre qu'il y a 20% des étudiants qui déclarent avoir eux-mêmes, personnellement, fait l'expérience d'un traitement inégalitaire dans l'institution universitaire. Voilà. Le problème, c'est que ces données-là, elles sont massives. et que on est dans le déni complet de cette réalité politique.
Elles sont pas non plus massives parce que les statistiques ethniques sont interdites en France et que
elles
donc les études
interdites.
Ne sont
pas excusez-moi mais quand on a
non, 20% des gens l'INED peut organiser des enquêtes en demandant quelle est l'origine de vos parents.
Non, nous avons fait une trentaine d'enquêtes de statistiques ethniques, je suis toujours pas en prison.
Les chercheurs se plaignent d'ailleurs
qu'ils
ont du mal à travailler sur ces questions-là.
Mais l'enquête trajectoire et origine, d'accord, qui a été réalisée en 2008 de l'INED et de l'INSEE, elle a très clairement affronté ces questions-là avec une stratégie de méthode qui est extrêmement intéressante.
On pose
parce
la question aux gens, quelle est l'origine
coller...
de vos parents, c'est ça.
Voilà, mais surtout elle cherche à coller à ce qu'on sait de la réalité du phénomène. C'est-à-dire on cherche à produire des statistiques, non pas en surplomb, mais des statistiques qui vont essayer de rendre compte de la manière dont fonctionne
mais
réellement le
racisme. Les enquêtes sur les mécanismes de l'orientation scolaire et d'un racisme présumé dans les mécanismes de l'orientation scolaire, ces enquêtes-là, elles sont compliquées à mener, non ?
Elles sont compliquées à mener et elles sont d'autant plus compliquées à mener que quand on veut parler sur l'expérience du racisme chez les enseignants, vécu par les enseignants, d'accord, comment ils sont traités quand ils sont inspectés, comment ils sont traités par les collègues, comment ils sont traités dans le rapport au public, etc. C'est extrêmement compliqué parce qu'il y a un tabou formidable dans l'institution scolaire sur cette question-là. Donc le problème de fond, et à mon avis le problème qui est à la fois scientifique et politique, il est majeur, il est de ce côté-là. C'est nous avons une réalité dont ce dont nous savons à partir des études que nous avons, c'est que c'est un phénomène massif, et on a après des polémiques à répétition qui ont pour effet de faire croire que le racisme, c'est une question d'intention des individus. C'est pas le problème. Et du coup, quand les chercheurs utilisent racisme d'État, moi, j'utilise d'autres catégories, discrimination systémique, racisme institutionnel, etc., ça veut dire non pas qu'il y a une intention du ministre ou de l'ensemble des lois ou du système scolaire d'eux, c'est pas une question d'intention, mais ça veut dire qu'il faut prendre acte que la reproduction de cette discrimination et de ce racisme, il fonctionne avec le fonctionnement
mais
normal de
très
l'institution.
Très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans des conseils d'orientation, il y a des enseignants qui, de manière consciente ou inconsciente, vont davantage orienter un élève vers une filière professionnelle plutôt qu'une filière générale, avec donc des études plus courtes, parce que, par exemple, il est noir ? C'est ça que vous... Ou
mais,
pas ?
Si vous voulez, le problème, c'est qu'en posant les choses comme ça, on est encore à chercher à imputer à des personnes est-ce que ce seraient les enseignants, même inconsciemment. D'accord ? Quand on observe les mécanismes d'orientation, ça ne se traduit pas, si vous voulez, la discrimination, elle n'intervient pas à un moment précis. Elle se joue, il y a des choses qui se jouent dans le conseil de classe, dans la manière dont on va évaluer les élèves. Il y a des choses qui se jouent dans la diffusion de l'information dans la classe auprès des élèves. Il y a des choses qui se jouent, y compris de manière intériorisée, parce que des élèves ont anticipé le fait qu'ils allaient être victimes de discrimination. C'est tout ça combiné, d'accord ? Et tout ça combiné, c'est ça qu'on appelle la logique institutionnelle, ou que d'autres appellent le racisme d'État. Ça ne veut pas dire une intention à quelque niveau que ce soit. Ça veut dire une organisation, effectivement, qui reproduit tendanciellement cette réalité-là.
Louis Georgetin, pour vous, les mécanismes de racisme ou de discrimination à l'orientation, ils se jouent à quel niveau et comment ?
Ils se jouent en effet à tous les moments, mais ils cristallisent au moment de l'orientation parce que c'est là que se fabrique le destin des élèves. Et donc, nous avons une enquête en cours sur ce sujet. Nous avons des résultats déjà sur un ou deux établissements, mais il faut généraliser, qui montrent qu'au moment du conseil de classe, à notes égales, à origine sociale égale, eh bien, il y a en plus des biais ethniques qui jouent sur le destin. Et donc, vous avez en France des lycées généraux qui permettent un parcours plus privilégiés, des lycées techniques ou professionnels qui permettent des parcours moins privilégiés. Donc c'est là que ça se joue. Donc il y a des discriminations sociales et ethniques qui se combinent et se renforcent. Cela est difficile, ces enquêtes sont tout à fait légales et autorisées, elles sont en cours. Mais elles sont difficiles tout simplement parce qu'en général, l'éducation nationale ou les autres institutions d'ailleurs ne veulent pas en entendre parler. C'est la politique de l'autruche.
Alors le CRAN réclame des statistiques ethniques depuis des années.
Et
vous
nous en
dites,
avons.
Pour plus d'égalité, il faut pouvoir compter. C'est ce qu'on fait d'ailleurs pour les femmes maintenant, puisqu'il y a, d'ailleurs, là aujourd'hui, vous êtes quatre hommes. Nous, on va rentrer dans un logiciel après l'émission, le sexe de nos invités, parce que c'est une obligation légale par le CSA. Et on sait à la fin de l'année combien on a eu en pourcentage de femmes et d'hommes qui ont participé à toutes les émissions de notre chaîne et pour toutes les chaînes d'ailleurs. C'est une obligation légale. Est-ce que les statistiques ethniques, aujourd'hui, qu'est-ce que vous réclameriez pour qu'on puisse mieux comprendre les mécanismes de discrimination ?
En fait, ce sont parfaitement légales. En général, les gens confondent statistiques ethniques et fichiers ethniques. Un fichier ethnique, en effet, c'est illégal parce qu'il y a des noms de personnes référées à des origines. Une statistique, c'est un nombre, ce n'est pas un nom. Donc c'est anonyme, il n'y a pas de problème. Nous-mêmes avons fait plus de 30 enquêtes sur des milieux divers, dans l'éducation ou ailleurs, et cela est possible. Simplement, il faut, si on veut faire une enquête sérieuse, des moyens, on ne va pas simplement étudier 2-3 établissements.
Que vous ne pouvez pas avoir pour le moment, puisque les textes, en réalité, ne vous y autorisent pas réellement.
Mais si, c'est tout à fait facile, puisque nous avons des fichiers d'élèves, par exemple, il y a le nom, il y a les photos, et donc vous pouvez très bien dire, on va comparer des choses comparables. La méthodologie est simple. Le CSA, dans un autre domaine, excusez-moi.
De noms de photos, enfin, excusez-moi, il y a eu un sociologue CSA. Qui a enquêté sur les prénoms des élèves à l'orientation,
je
ça
vais
a quand même
un
fait polémique.
Dans un autre... Mais non, il y a 40 enquêtes, Le Monde, Libération, le CSA, par exemple, de le domaine de l'audiovisuel, vous venez d'en parler, fait chaque année le baromètre de la diversité, c'est sur leur site, ils regardent la question du genre, des origines sociales, du handicap et des origines ethniques. Aujourd'hui, le CSA vient de rendre son rapport en disant, il y a à peu près 15 à 16% de personnes non blanches qui passent à la télévision. Donc c'est possible. Et c'est grâce à ça qu'on a pu
Amine
faire avancer le débat.
C'est souhaitable ou pas d'avoir des statistiques ethniques à l'éducation nationale pour lutter contre les discriminations scolaires?
Moi, je ne suis pas favorable aux statistiques ethniques et c'est un grand débat. Mais j'entends des choses quand même là aussi qui sont assez curieuses. L'un de vos intervenants a parlé de phénomènes massifs. Alors on balance comme ça des phrases toutes faites en disant voilà, c'est un phénomène massif. Ça ne s'appuie sur aucune donnée sérieuse, sur aucun élément chiffré, et on peut dire comme ça tranquillement à la radio, oui, il y a du racisme dans l'éducation nationale. C'est un phénomène massif. Bon, tout ça est assez.
Les éléments chiffrés qu'on a à l'heure actuelle concernent davantage l'origine sociale. On est bien d'accord. Les chiffres qu'on a à l'heure actuelle concernent essentiellement l'origine sociale. Et d'ailleurs, les enquêtes internationales de l'OCDE parlent d'origine sociale.
Je puisse terminer mon propos. Il y a un phénomène dont on ne parle pas. J'aurais bien aimé entendre l'antenne Sud Éducation du 93 sur ce sujet, et qui lui, pour le coup, est un phénomène massif et avéré, c'est l'antisémitisme dont sont victimes les enfants juifs dans un certain nombre de nos écoles. Et j'aurais bien aimé entendre Sud Éducation 93 sur le fait, par exemple, qu'il n'y a quasiment plus d'enfants juifs dans les écoles publiques de Seine-Saint-Denis. Il y avait 3 écoles privées juives il y a 10 ans, il y en a désormais 8 en Seine-Saint-Denis, parce que les familles juives sont en train massivement d'exfiltrer leurs enfants des écoles publiques vers des écoles confessionnelles privées, où ils considèrent que leur sécurité sera davantage assurée. S'il y a un phénomène inquiétant et qui, pour le coup, lui, est massif, général et perceptible partout en France, c'est l'antisémitisme dont sont victimes les enfants juifs dans ce pays. Et j'en veux pour preuve supplémentaire le témoignage de Bernard Ravet à Marseille, qui a expliqué de manière fort brillante dans un livre comment il avait conseillé à une famille juive qui rentrait d'Israël de scolariser son enfant dans un établissement juif privé plutôt qu'à l'école publique, parce qu'il n'était pas certain d'assurer la sécurité de l'enfant. Si l'on pouvait entendre nos syndicats un peu plus
alors
sur ces questions...
Alors justement, on va donner la parole à Olivier Laferrière.
Plutôt que de se plaindre sur un racisme général d'État qui n'existe pas, ça ferait peut-être avancer le débat.
Excusez-moi, Olivier Laferrière, co-secrétaire de la Fédération Sud, vous répondez à Amine El-Khatmi?
Oh oui, on n'a aucun
sur
problème.
Sur la situation des enfants juifs victimes d'antisémitisme en Seine-Saint-Denis.
On lutte contre l'ensemble des phénomènes racistes, y compris évidemment contre l'antisémitisme, et on va pas nier qu'il y a un antisémitisme, mais tous les jours, en tant qu'enseignant, en tant que professionnel, on lutte contre ces phénomènes-là.
Comment ?
Bah, par l'éducation, par l'explication de l'histoire, par y compris la dissociation des amalgames qui sont faits aujourd'hui avec toute critique de l'État d'Israël qui est immédiatement dénoncé comme antisémite. Et on le sait, là, on s'y prépare.
Oui, là, c'est pas parti
avec ce qui vient
là.
D'être annoncé par le président Trump,
on va
avoir à faire tout un travail là-dessus. Sur ces questions-là, on est en train de s'y préparer. Par contre, il n'y a
pas d'ambiguïté de votre syndicat sur cette question-là?
Évidemment pas. On est inscrit dans tous les combats antifascistes, antiracistes, et évidemment contre l'antisémitisme. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune ambivalence là-dessus, et l'ensemble de nos syndicats est évidemment engagé là-dedans. Deux remarques par rapport à ce qui a été dit, parce que en partie le débat tel qu'il a été mené repose sur des amalgames, des mensonges qui ont été faits sur ce qu'est la réalité de ce stage. Nous ne construisons pas des murs. Nous ne séparons pas. la non-mixité n'est pas notre projet de société.
On vous a laissé au début de l'émission expliquer hein, en oui, quoi consistait
mais là,
ce stage.
On y revient.
Dans l'émission, je crois que c'est clair, vous l'avez bien expliqué.
On y revient, c'est un outil temporaire et donc ce n'est pas un projet de société. Deuxièmement, on ne peut pas opposer l'idée que soit il n'y a que des individus racistes, soit il y a un état d'apartheid. Évidemment, on ne dit pas qu'il y a un état d'apartheid. Évidemment, la loi de la République garantit officiellement l'égalité. Mais il y a un racisme systémique. Et quand des écoles refusent de scolariser des enfants roms et que les préfectures, les représentations de l'État ne font rien pour que ces enfants roms soient scolarisés,
de quoi s'agit-il?
C'est peut-être anti-républicain, c'est la réalité de la politique de l'État d'aujourd'hui.
Mais justement, c'est avec ces valeurs de la République qu'on s'oppose à ces pratiques anti-républicaines.
Alors, le problème, il est quand même, c'est qu'on peut dire valeurs de la République, d'accord, mais les principes sont importants pour nous montrer une direction, mais le principe, s'ils sont sur la base d'une négation de la réalité, c'est quand même un problème, parce que dans l'exemple dans l'exemple qu'on nous donne tout à l'heure, on dit massivement, mais on donne pas de données. Moi, j'ai apporté quelques données, je peux vous en amener à l'appel si vous voulez, d'accord. Par contre, on nous oppose un témoignage d'un chef d'établissement, et sans réfléchir sur les conditions de production de ce témoignage, et là, ça ne pose pas de problème. Hein. On a des données, moi, pour ma part, j'ai dirigé, pour la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, un travail de synthèse de la littérature qui est sorti et publié à la Documentation française en 2011. Libre à tout le monde d'aller consulter cet ouvrage qui est produit par l'État, d'accord, pour réfléchir sur cette question.
On arrive au terme de cette émission. Je voudrais que vous puissiez chacun rassembler vos messages, parce que je sais bien que l'émission est trop courte, mais Aminel Khatmi, déjà, dites-nous, vous, pour vous, quelles sont les priorités? Je crois que sur le fond, sur les objectifs à atteindre, moins de racisme, moins de discrimination, à l'école, avec un grand E française, on est d'accord, mais quelles sont les priorités pour vous pour lutter contre ces discriminations et ce racisme dans le système scolaire, Aminel Khatmi, alors?
Bon, d'abord, si vous permettez, je ne peux pas laisser dire que le témoignage de Bernard Ravé ne repose sur rien, etc.
Non, il repose sur son expérience dans un établissement à Marseille.
En l'occurrence, je parle d'un phénomène massif, et il suffit de voir les chiffres des enfants juifs scolarisés partout dans les départements de France, et notamment dans les départements urbains proches de régions parisiennes, pour voir les transferts d'écoles privées vers écoles publiques vers écoles privées qui ont eu lieu ces dernières années, pour comprendre que c'est un phénomène massif et qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main. Pour en revenir à votre question, je crois qu'il faut rester sur les principes. Le premier principe, c'est combattre toute forme de racisme et de discrimination, et la hiérarchie doit être extrêmement vigilante à chaque fois qu'il y a un propos, une attitude, un acte raciste qui est commis, que ce soit par du personnel encadrant ou par des enseignants. Il faut qu'il y ait une sanction et une réponse immédiate. Et en même temps, réaffirmer les principes républicains, réaffirmer l'universalité du combat antiraciste, réaffirmer que non, la France n'est pas un pays structurellement raciste ou islamophobe, que c'est un pays généreux, que c'est un pays républicain où tous les enfants ont leur place. Et donc, voilà, on réaffirme ce message positif pour nos enfants et pour notre jeunesse.
Louis-Georges Tin, du CRAN.
Je voudrais revenir sur la question de l'antisémitisme qui est importante.
Plutôt pour conclure, si vous voulez bien rapidement.
Conclure, justement. Une amie à moi, prof dans le 9-3, avait justement, après la seconde intifada, été confrontée à la violence de certains élèves, en effet, qui boycottaient le cours sur la Shoah, en disant c'est de la propagande sioniste, etc. Et ces élèves, qui pour la plupart étaient issus des anciennes colonies, étaient extrêmement violents. Qu'a-t-elle fait? Elle s'est dit l'année d'après, je vais commencer le programme de troisième, puisque c'est à ce moment-là qu'on fait ce cours, non pas avec ce qui est fait, mais avec la fin du programme de quatrième, la colonisation. On ne parle jamais de la colonisation. Elle s'est dit, je vais faire cela. Et elle a fait ensuite le programme 19e, 20e siècle, parlant de la Shoah. Elle me dit, non seulement le cours sur la Shoah n'a pas été boycotté, mais dès le début de l'année jusqu'à la fin, tous les élèves demandaient plus d'informations, voulaient aller dans les musées, poser des questions. Ils ne sont pas tous devenus historiens, ils sont tous devenus citoyens. Donc des élèves qui étaient anti-juifs, anti-France, anti-système, sont devenus des élèves intelligents parce qu'ils se sont sentis inclus. Étant inclus, ils ont voulu inclure tout le monde. Eh bien, cette école, cette classe est le laboratoire de ce qu'il faut faire en France. Quand les gens se sentent inclus, ils veulent inclure les autres. Quand ils se sentent exclus, ils veulent exclure les autres. Voilà ma conclusion.
Olivier Loup.
Oui, c'est fondamental. Par exemple, aussi, ça se passe au lycée. Pourquoi donne-t-on le choix, quand on est au début du programme de terminale, entre l'historien et la mémoire de Vichy, l'historien et la mémoire de la guerre d'Algérie ? Évidemment qu'il faut faire les deux. Et qu'il faut y passer du temps s'il y a besoin d'y passer du temps. Je suis complètement d'accord avec cette idée que, bien sûr, l'histoire doit servir à une inclusion dans un récit du commun qui doit être débattu en commun.
Fabrice Dume ?
Oui, si on veut agir, je pense qu'il faut d'abord regarder la réalité en face. Et ça veut dire de poser et de prendre la mesure du caractère massif de la ségrégation en France, du caractère massif des discriminations en France, du fonctionnement concret du racisme sur un mode d'une chaîne d'acteurs, d'une chaîne de responsabilités qui sont imbriquées, donc sur un mode systémique de fonctionnement de la réalité du racisme. C'est ça qu'il faut qu'on parte de là. À partir de là, c'est en faisant ce constat et en assumant les conséquences de ce constat qu'on peut faire quelque chose. J'ai juste un exemple à citer. Il y a créé en France un réseau national de lutte contre les discriminations à l'école qui regroupe des enseignants, des chercheurs, des parents, etc., qui partent précisément du constat. Et les principes, ils arrivent après pour se dire, par rapport à ce constat, comment on va pouvoir agir dessus. Parce que sinon, on utilise des principes comme une manière simplement de garder un aveuglement et une surdité collective.
Ouvert à tous pour partager un même objectif. Donc, on est bien d'accord là sur la méthode, réseau.
Ce n'est même pas la question, d'accord ? Olivier, on est tous également concernés par ce problème-là. Par contre, on n'est pas tous concernés de la même manière. Parce que ce n'est pas vrai que tout le monde vit le racisme en France.
Olivier Laferrière, il vous reste quelques secondes.
En complément.
Les ateliers vont bien se dérouler, 19-20 décembre.
Les ateliers vont se dérouler, mais un autre axe de la lutte contre les discriminations, c'est la lutte contre les inégalités territoriales. En complément de ce que vient de dire Fabrice Dume, et notamment le syndicat Sud Éducation 93 au sein de Solidaires 93 lance une campagne 4 milliards pour la Seine-Saint-Denis. L'État, le ministre de l'Éducation nationale, c'est en Seine-Saint-Denis qu'il met le moins de moyens par élève.
Hein. On y reviendra.
Et il y aura une grève le 14 en Seine-Saint-Denis, on y reviendra. Justement sur ces questions-là.
Merci à vous tous. On se retrouve lundi en direct.